un de quoi soleil. Catecontia.
Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, alléluia, alléluia.
Bonjour Sœur Joël.
Bonjour Sœur Joël.
Vous avez la pêche aujourd'hui, bonjour les enfants.
Oui, c'est Noël bientôt.
Super.
Dis, l'autre fois, on a parlé du Gloria de la messe. Eh ben, à Noël, les anges aussi ont chanté Gloria, non ?
C'est vrai ça. Quand ils ont annoncé la nouvelle au berger dans la nuit, ils ont chanté Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloria, Gloria.
Vous en savez des choses. Eh bien, vous avez raison. Mais avant de parler de Noël, j'aimerais que l'on revienne à notre parcours depuis le début. Vous vous souvenez ? Nous sommes partis du début du déroulement de la messe.
Oui, le chant d'entrée.
Le signe de la croix.
La demande de pardon.
Et le Gloria.
Eh bien, chaque fois, cela nous a fait approfondir quelque chose d'important pour notre vie de chrétien. Alors, on continue ?
Oui !
Tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui se trouvait dans la première partie de la messe, que l'on peut appeler le rassemblement.
C'est pour ça qu'on est debout.
Voilà. Ensuite, on s'assied.
Pour écouter la parole de Dieu.
Oui, on s'assied d'abord pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire en ce dimanche à travers les lectures que propose la liturgie. Et ensuite, nous le verrons, nous nous mettons debout pour proclamer notre foi et prier tous ensemble avec ce que l'on appelle la prière universelle, des intentions de prière pour le monde entier. Tout ça fait partie de la liturgie de la parole. Dieu nous parle et nous le lui répondons.
Mais c'est lui qui nous parle le premier.
Parce que c'est lui qui nous aime le premier.
Eh bien voilà, je vois que vous avez bien retenu. Mais bien sûr, comme un père ou une mère aime et parle les premiers à leur enfant. Chacun de nous, lorsque nous venons au monde, eh bien, l'amour nous précède.
C'est vrai ça. Si j'aime Jésus, c'est parce que lui m'aime d'abord.
C'est quand même génial. Dieu m'a voulu. Je suis aimée par Dieu.
Et même infiniment plus que tu ne peux l'imaginer. Tu sais, il t'aime infiniment plus que la personne qui t'aime le plus au monde.
C'est fou !
On devrait y penser plus souvent.
Oui, c'est terrible. En fait, on oublie les choses fondamentales.
Tu as dit qu'on était assis pour écouter la parole. Mais alors, pourquoi on se lève pour l'évangile ? C'est bien la parole de Dieu.
Oui, mais nous nous levons à la lecture de l'Évangile, parce que si dans la Bible, Dieu se révèle d'abord à travers l'Ancien Testament, à des prophètes, vient le jour où lui-même se révèle, c'est Jésus.
Ah oui, et l'Évangile, c'est la parole de Jésus, c'est pour ça qu'on se lève.
Mais exactement. D'ailleurs, puisque vous trouvez si vite, je vous pose une question. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Lorsque le prêtre a lu l'Évangile, il montre le livre. Et qu'est-ce qu'il dit ?
Acclamons la parole de Dieu.
Bien. Et on répond quoi ?
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Et alors ? Il n'y a rien qui vous étonne.
La
parole de Dieu, ça n'est pas un livre. On dit louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, c'est quelqu'un, Jésus. Dieu a tout dit en Jésus. Et c'est lui, Jésus vivant, aujourd'hui, qu'on acclame.
Ah ! Et c'est pour ça qu'on se met debout. C'est pour ça qu'on chante Alléluia et tout ça.
Eh ben voilà. Alors nous reviendrons une fois prochaine sur tout cela et nous parlerons de cette bibliothèque qu'est la Bible. Mais je voudrais aujourd'hui vous raconter une histoire pour que vous compreniez comment la parole s'est faite chair, comment la parole s'est faite Jésus, ce que nous allons célébrer bientôt à Noël.
Une histoire ? Super !
Vas-y, on t'écoute !
Eh bien, c'est un jeune garçon, Thomas, qui part faire une randonnée en montagne avec son père. C'est l'été, il fait un temps splendide. Ils partent très tôt le matin au lever du jour. Maman a préparé un super pique-nique qu'ils ont mis dans leur sac à dos. Les voilà donc partis. Ils marchent durant des heures, mais comme c'est beau et comme ils sont heureux d'être là, tous les deux, ensemble. Papa d'ailleurs est très fier de son fils. Il a de l'endurance, ce petit. Et Thomas est fier d'accompagner tout seul son papa. Vers midi, ils arrivent au but. Ils sont fatigués, malgré la pause qu'ils ont faite à mi-course. Il y a à cet endroit un lac merveilleux avec une eau pure, limpide.
Ça doit être très joli.
Ouais, super. On y va, dit papa. S'enthousiasme Thomas. On va se baigner avant le pique-nique. Tu veux bien ? Non, non, non. Surtout pas, dit papa. C'est un lac extrêmement dangereux. Mais c'est pas possible. Regarde comme il est calme. Mais regarde comme l'eau est claire. Allez, on y va. Je te dis que non. Sous son apparence calme, ce lac est dangereux. Il y a des tourbillons dans son fond et tu peux être pris et te noyer. Non et non et non, on ne va pas se baigner. Thomas obéit. Mais il partage quand même très joyeusement le bon pique-nique préparé par maman. Et ils envoient à maman d'ailleurs un texto et une photo pour lui dire qu'ils sont arrivés et que c'est magnifique et que le pique-nique est super bon. Ensuite, papa propose une petite sieste. Ils sont quand même un peu fourbus. Papa d'ailleurs s'endort très vite. Alors Thomas se dit en lui-même. Vous savez, c'est une pensée qui s'infiltre sournoisement comme un serpent.
Comme Adam et Ève, quand le serpent a parlé à Ève.
Ben voilà, exactement, c'est ça. Alors là, Thomas se dit. Franchement, papa, il exagère toujours. Ça m'étonnerait que ce lac soit dangereux. Moi, je pense qu'il n'est pas dangereux. Parce que moi, je vois qu'il est calme. Et puis encore, comme un autre serpent, une autre pensée qui s'insinue. De toute façon, je sais très bien nager. Je peux faire face. Papa, lui, en fait, il ne sait pas très bien nager. C'est pour ça qu'il a peur. Et Thomas laisse entrer en lui toutes ses pensées. Et il discute avec elle. Et plus il les accueille, plus elle le persuade que c'est lui, Thomas, qui a raison. Et il doute de plus en plus de la parole de son père. Il ne lui fait plus confiance. Lui, Thomas, il voit les choses autrement. Et il préfère s'appuyer sur lui-même, sur son raisonnement à lui, plutôt que sur la parole de son père. Et donc, à partir de là, il va poser un acte. Il plonge. Bien sûr, très vite, il sent qu'il est pris par un tourbillon qui l'entraîne et qu'il ne peut pas maîtriser. Alors, il hurle de peur parce qu'il voit bien qu'il ne peut pas s'en sortir. Son père est réveillé en sursaut par ses cris de détresse. Que va faire le père de Thomas ?
Il va plonger ! Oui, il plonge pour le sauver !
Et non, il ne plonge pas.
Mais c'est pas possible !
Et pourquoi c'est pas possible ?
Parce que c'est son père ! Un père ? Ça ne peut pas supporter de voir mourir son enfant sans rien faire.
Eh oui, bien sûr, c'est vous qui avez raison. Bien sûr qu'il va plonger. Il ne peut pas faire autrement. Son cœur de père le pousse à risquer même sa vie pour sauver son enfant. Son enfant qui pourtant va se noyer par sa faute. Il lui avait bien dit ce qu'il ne fallait pas faire. Eh bien, vous voyez les enfants, c'est ce qu'a fait Dieu. Dieu qui est père. Il n'a pas supporté que l'homme, son enfant bien-aimé, se perde. Parce que, souvenez-vous, en ne voulant pas dépendre de Dieu, en n'obéissant pas à ce que Dieu lui disait pour qu'il vive, l'homme s'est perdu et il a construit à l'envers et il ne sait plus où il va. Il construit des œuvres de mort, il se noie. Alors Dieu, après avoir parlé de bien des façons, va lui-même plonger dans l'humanité pour sauver l'homme, pour le ramener à la vie, à la vraie vie.
C'est Jésus ?
Oui, c'est Jésus. Mais maintenant, imaginez que par orgueil, Thomas, qui soi-disant nageait mieux que son père, ne veut pas être ramené par lui. Il veut s'en sortir tout seul. Eh bien, que va-t-il se passer ?
Mais il va se noyer ! Il va mourir !
Et oui, oui, oui. Et ce peut être un drame définitif.
Mais comment il va faire ?
Eh bien, cette histoire est une image de notre histoire avec Dieu. Notre péché, c'est de vouloir fonctionner sans Dieu. De ne pas comprendre qu'il nous aime, qu'il veut notre bonheur, qu'il nous donne sa parole pour nous indiquer le chemin de la vie. Mais nous, nous trafiquons cette parole, nous la mettons en doute, nous préférons notre raisonnement à nous, nos bonnes raisons. Résultat, nous nous perdons, nous finissons par ne plus savoir où nous allons, nous sommes dans la nuit et dans la peur, nous construisons de travers, et le risque est énorme, d'un drame définitif, si nous ne nous laissons pas sauver par lui. Parce que Dieu est Père, il ne supporte pas que nous mourions, que nous nous perdions, même si c'est par notre faute. Alors il va tout faire pour nous ramener à la vie, pour nous sauver. Et c'est donc ainsi que Dieu, à un moment précis de l'histoire de l'humanité, après avoir pendant des siècles préparé le terrain, en quelque sorte, va venir lui-même. C'est Jésus.
Jésus, c'est le plongeon de Dieu dans l'humanité.
Tu as tout compris, c'est ça. Nous qui, à cause du péché, étions plongés dans les ténèbres, ne sachant plus où nous allions, voici que lui, la lumière du monde, se fait l'un de nous. Jésus, il vient pour s'unir à tout homme, sans exception.
Tout homme de tous les temps ?
Oui, il veut sauver tous les hommes, sans exception.
Parce que chacun a dû prier pour lui.
Oui, mais vous savez, ce n'est pas pour rire qu'il nous aime. Jésus va prendre définitivement sur lui toutes les conséquences du péché, le mal, la violence, la souffrance et même la mort pour les transformer en chemin de vie.
Mais ce n'est pas fait.
Mais si, c'est fait du côté de Dieu. Mais Dieu, il ne peut pas me sauver sans moi. Pensez au père de Thomas tout à l'heure. Être chrétien, c'est accueillir ce salut, c'est accueillir ce Jésus dans ma vie, par le baptême, et tout vivre avec lui, ne pas le quitter.
Alors, c'est ça, Noël ? Accueillir Jésus qui se donne, qui veut nous sauver ?
Mais c'est exactement ça, tu vois. Tu touches là du doigt quelque chose d'essentiel. Si nous célébrons Noël tous les ans, ce n'est pas pour fêter un anniversaire seulement, mais c'est pour que chaque être humain puisse librement accueillir Jésus dans son existence, bien concrètement. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour lui dans l'hôtellerie de mon cœur ?
C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se confesser avant Noël.
Comme ils ont raison, de vouloir enlever tout ce qui empêche Dieu de se donner totalement à nous. Lui qui veut nous libérer, lui qui veut nous rendre la joie d'être sauvés.
Alors, je crois que je vais aller me confesser.
Moi aussi.
Mais moi aussi, je pense. Alors, quelle joie va avoir Jésus ? Il va pouvoir se donner à nous comme il le désire. Et à travers nous, rejoindre tous ceux que nous allons rencontrer. Alors vraiment, bon Noël les enfants.
Bon Noël, Sœur Joël. Et rendez-vous au prochain 1, 2, 3, soleil, 4 écoutes, cigares.
Des courtillards.